Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Nous allons partager ensemble une bande dessinée, bien entendu aujourd'hui avec un duo féminin que nous avons rencontré déjà à plusieurs reprises. Alors, pour la scénariste, je n'ai pas de problème, il s'agit d'Anne-Caroline Pandolfo. Par contre, pour la dessinatrice, c'est un tout petit peu plus compliqué pour moi. Elle s'appelle Terkel, son prénom, Risbjerg. Voilà, j'ai essayé de le dire à peu près correctement. Deux autrices, donc, qui nous ont beaucoup plu dans un certain nombre d'albums parus. Elles sont assez prolixes, toutes les deux. Il y a eu, quelques années en arrière, un portrait de Karen Blixen, en particulier, qui s'appelait La Lionne.
Oui, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu de ces deux créatrices. Karen Blixen, en plus, c'est un personnage extraordinaire, hein, qu'on connaît par son œuvre littéraire, mais sa vie est un roman. C'était particulièrement bien raconté, particulièrement attachant. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Serena, qui était un portrait d'une chef de bande, bon, qui m'avait moins convaincu, mais peut-être parce que le personnage était très inconfortable, si j'ose m'exprimer ainsi.
Pas une gentille, en effet.
Non.
Et puis, il y a eu Enferme-moi, si tu peux,
qu'on a adoré, dont on a parlé sur cette même antenne. Il y a quand même une conjonction de sujets, puis de thèmes avec l'album dont on va parler aujourd'hui. C'est le décalage entre un potentiel, les gens qui vous entourent, la difficulté à exprimer quelque chose. Alors c'était d'un point de vue artistique avec Enferme-moi si tu peux, mais à exprimer une émotion, à participer à l'évolution de l'humanité. J'ai l'impression d'employer des termes très ronflants.
C'est beau.
Mais je pense que cet album, Le Don de Rachel, dont nous parlons aujourd'hui,
voilà,
peut ouvrir beaucoup de champs des possibles, des champs de réflexion.
Et puis un décalage aussi entre la réalité et ce qui est plus mystérieux.
Ce qui est perçu, au-delà de la réalité, les choses derrière les choses, comme on dit dans Quai des Brumes.
Alors, je vais dire d'emblée que c'est un des éléments qui m'a, moi, bloqué, puisqu'il est question d'une femme avec des yeux grands ouverts, qui contemple manifestement des choses qui nous échappent totalement et qui va même au-delà de l'entendement. Et moi, personnellement, tout ce qui touche à cette dimension-là, j'ai un petit peu de peine. Mais vous, ça vous a passionné, Thierry.
Moi, j'avoue
hypnotisé
que...
même.
Oui, hypnotisé le mot parce que Le Don de Rachel. Rachel, c'est ce médium. Et j'avoue que je suis tombé sous le charme parce que Rachel a des yeux immenses. À intervalles réguliers, elle nous regarde. Elle plonge ses yeux dans les nôtres ou l'inverse. Et ses yeux, c'est deux lacs dans lesquels j'ai l'impression de me noyer. Et j'ai abdiqué toute raison en voyant ce regard. Et je pense que ça a joué dans la fascination que j'ai pu... Enfin, au moins l'intérêt. La fascination est peut-être trop forte, mais l'intérêt est peut-être trop faible comme mot. L'inclination que j'ai pour cet album, c'est un coup de cœur. Je suis tombé sous le charme de Rachel. Le personnage est fascinant. La construction du livre est fascinante aussi. Les auteurs s'en expliquent à la fin. Moi, ça m'a rappelé, ils y font allusion d'ailleurs, donc c'était pas un hasard, un film qui est déjà un petit peu ancien, qui s'appelle The Hours, un film de Stephen Daldry.
Qui a une dizaine d'années, oui.
Qui a une dizaine d'années, qui était construit de la même façon, c'est-à-dire qu'on y voyait en première partie Virginia Woolf, interprétée par Nicole Kidman, qui jouait très bien, ceci excepté qu'elle avait un faux nez, qu'on ne voyait que ça. Des années plus tard, on voyait une femme vivre ce que vivait l'héroïne du roman de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Et des années plus tard encore, on voyait quelqu'un lire ce livre et ses répercussions sur sa vie quotidienne. Et c'est ce qu'on voit dans Le Don de Rachel, ces trois époques différentes et trois portraits de femmes qui sont concernés par les thèmes qui sont évoqués dès le départ de ce livre. Le Don de Rachel, c'est le don d'une jeune femme qui est médium dans le Paris de Louis-Philippe. C'est pas du chiquet, puisque même à un moment, elle est entre guillemets autopsiée par Robert Houdin, qui dit « Moi, je suis un artiste, elle, c'est un médium. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiquet, il n'y a pas de trucage, elle a un vrai don. Mais ce don, il est gaspillé, parce que ce personnage de Rachel, il a un succès de scandale. Il y a beaucoup de gens qui ont des réactions très hostiles, très exacerbées envers elle. On soupçonne quelque chose de diabolique, c'est une sorcière, en fait. C'est une femme et elle a un don mystérieux, donc c'est une forme, c'est un avatar d'une sorcière. Mais ce qu'on lui demande, c'est en fait des choses triviales. C'est qu'est-ce que j'ai dans ma poche droite ?
On est dans le registre de l'amusement.
Voilà, on est en registre du divertissement, alors que Rachel, elle voit des choses très profondes, elle voit des choses qui concernent... Par exemple, on l'interroge sur « j'ai un papier dans ma poche, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus ?»« Oui, vous avez ci, il est écrit ça, ça et ça. » Oh, extraordinaire, étonnant.
Mais
vous devriez rentrer chez vous parce que votre femme ne va pas bien. Elle est malade, il faut la soigner d'urgence. Pour Rachel, c'est ça l'essentiel. Mais ça, on ne s'y intéresse pas. Les plus hauts personnages, alors non seulement de l'État, mais de la société, s'intéressent à elle. On voit, il y a une séquence avec Alexandre Dumas, une séquence avec Louis-Philippe, ou l'entourage de Louis-Philippe. Donc des gens qui devraient avoir un fond de conscience un peu plus élevé. Mais on ne dépasse pas le stade du divertissement, de l'amusement, du pittoresque, du trivial, une façon de s'échapper du quotidien. Et peu à peu, Rachel va s'exténuer à pratiquer son art. Elle qui a régulièrement des sortes de... des visions. On peut s'interroger, est-ce que certaines séquences qui sont décrites dans l'album sont imaginaires, sont le fruit pur de son imaginaire? Est-ce que c'est la réalité? En fait, on la voit s'élever dans les airs, léviter. On se croirait dans un Chagall, avec ces personnages qui s'envolent au-dessus des toits d'une ville.
Est-ce que d'ailleurs son poète de compagnon est réel ou est-ce que c'est d'une certaine manière son vis-à-vis intérieur?
Oui, parce que le Don de Rachel, c'est le titre d'un livre que rédige son compagnon poète, le livre qu'il rédige sur Rachel pour laisser une trace. Est-ce que tout ça n'est pas une manifestation de son esprit en surchauffe? Rachel va finir par, je le disais, s'épuiser et littéralement disparaître. Disparaître de notre monde, mais elle va ressurgir d'une certaine façon, des années plus tard, sous la forme d'un thème pour un ballet. Donc on suit une chorégraphe qui s'inspire du Don de Rachel du livre pour créer un ballet. Elle bute sur une impossibilité, n'y arrive pas. Et il va y avoir un déclencheur, c'est le personnage du double, en fait, de la narratrice. Alors, est-ce que c'est une allusion au personnage du doppelganger, le double dans la littérature fantastique germanique, etc. Encore une autre hypothèse. On va sauter à l'époque contemporaine avec un personnage de photographe qui travaille sur le portrait et qui... Ah là là, je suis en train de raconter la fin, c'est pas bien. J'ai essayé de raconter le dispositif narratif.
Ben, en fait,
sans dévoiler la fin. Je vais m'arrêter là, peut-être.
De portraits, Thierry, des portraits qui se répètent, s'enchaînent, se développent au fur et à mesure de cet album.
Oui, exactement. C'est terrible parce que cet enchantement que je décrivais, sur le charme sous lequel je suis tombé, j'ai peur de le dissiper par quelque chose de trivial, d'être comme ces personnages qui gaspillent le don de Rachel en disant trop.
On ne va pas en dire trop, on va essayer d'échapper à ça. Moi, j'ai des remarques et surtout des réserves par rapport à cet album, parce que c'est un bel album, effectivement. Vous parliez de lac, donc on est prêt à se perdre dans un lac. Pour ma part, j'ai trouvé que la première partie qui développe tout ce qui se passe au 19e siècle est intéressante, parce que c'est un portrait de cette époque-là. Et qu'ensuite, par contre, il y a moins de profondeur dans ce qui va être raconté. Et que finalement, on en revient aux thématiques des autrices et qu'elles sont du coup un peu répétitives à mon goût dans ce qu'elles nous racontent là. Moi, j'ai été dérangé donc par plusieurs aspects.
Une forme de facilité.
Oui, un petit peu. Oui. Un peu facile, malheureusement. Mais je ne voudrais pas ôter de votre cœur, Rachel.
Non, mais j'accueille vos réticences avec raison et je suis pas loin, en fait, de les partager. Mais typiquement, c'est un album où je suis resté sous le charme éprouvé dès le début et j'en ai perdu toute faculté de raisonnement.
C'est étonnant ce qui se passe là parce que je remarque dans nos appréciations par rapport à un album de bande dessinée, en l'occurrence, puisque c'est ce dont nous parlons, eh bien... Il y a des phénomènes qui se produisent dès le départ où soit ça fait écho, soit ça ne fait pas écho. Et il est très difficile, quand ce n'est pas le cas, d'entrer quand même dans ce qui nous est proposé.
On prend pied dans cet univers, ce mode de narration, cette façon de raconter où on reste sur le seuil. Moi, ça m'arrive assez souvent avec beaucoup d'albums. Ce que j'appelais les albums un peu clivants. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas de celui-là, mais où on nous propose d'entrer dans un monde qui n'est pas le nôtre, a priori, amateur de BD, notre monde habituel. Ça vient des tripes, en fait. On y rentre ou on n'y entre pas. Il est très difficile de passer outre pour les meilleures raisons du monde. Donc là, je serais passé outre pour les plus mauvaises raisons du monde.
En tout cas, voilà, nous vous avons présenté ce Don de Rachel, paru chez Casterman, par Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg. Je suis impatient, en fait, de voir ce qu'elles vont nous proposer. Est-ce qu'elles vont réussir à se renouveler? Parce qu'elles sont quand même dans un registre plutôt féministe, hein, toutes les deux. On comprend pourquoi. Je suis curieux de voir si elles vont réussir à aller plus loin encore dans ce qu'elles vont nous offrir en bande dessinée. Merci Thierry et merci pour ce partage, même si on n'était pas forcément d'accord par rapport à nos appréciations de cet album. C'est bien de donner différentes orientations. À la prochaine fois.